Le journal, Olivier Zano.
Bonjour, le HC Bienne n'a pas tout perdu hier soir en Suisse centrale. Malgré sa défaite contre Zoug, 3-2 après les tirs au but, le club de hockey sur glace célandais a livré un match référence depuis la reprise de la National League. On en parle dans une poignée de secondes. Les partis régionaux s'organisent à l'approche des élections cantonales du 27 mars. Les apparentements ont été communiqués hier. La gauche fera bloc, c'est une première. À droite, peu de changements dans les alliances. On fait le point dans cette édition. Du côté de la météo, quelques beaux rayons de soleil encore au menu de cette matinée malgré des stratus persistants. Les nuages qui vont se faire plus nombreux dans l'après-midi avec quelques flocons possibles en soirée et la nuit prochaine. Température encore négative en ce moment, elles atteindront 3 à 5 degrés au meilleur de la journée. Il a manqué un brin de réussite au HC Bienne hier soir à la Bossart Arena. Le club de hockey sur glace rouge et jaune a été battu par Zoug 3-2 après les tirs au but en National League. Mené 2-0 à 3 minutes de la fin, la bande d'Antti Turmenen est revenue au score en trombe grâce à Damien Brunner. Elle aurait même pu l'emporter en prolongation si Tony Rajala n'avait pas touché la barre. À l'heure de l'interview, le joueur zougois originaire de Bienne, Grégory Hoffmann, reconnaissait que son équipe s'en sortait bien. Avec ce résultat, Grégory Hoffmann.
Bien à mieux jouer sur les 60 minutes ce soir, mais on a trouvé une façon de gagner au penalty et c'est ce qui compte, donc bien pour l'équipe.
Vous aviez joué contre Bienne la saison passée, quel regard vous portez sur cette équipe, contrairement à celle de l'année passée sous Lars Leuenberger ?
Moi je crois qu'ils ont apporté des éléments dans leur groupe qui apportent beaucoup de qualité et ça se voit sur la glace. Ils ont 4 lignes qui savent attaquer, savent défendre, ils créent beaucoup de dangers sur les contres, donc... On a payé le prix sur les deux goals, malheureusement. Mais comme j'ai dit, on a trouvé une façon de gagner au penalty et on prend les deux points ce soir.
Des propos recueillis par Damien Piscopiello. Au classement, Gaëtan Haas et ses coéquipiers conservent leur quatrième rang, mais voient les ZSC Lions se replacer derrière eux. Le Z sera d'ailleurs le prochain adversaire des Célandais vendredi à la Tissot Arena. Sur les autres patinoires de National League, les ZSC Lions, justement, ont dominé Davos 3-2 et se rapprochent du podium. Rapperswil a fait honneur à son troisième rang en battant Langnau 3-1. Le leader Fribourg-Gotteron a repris la compétition en remportant le derby des Zeringen contre Berne sur le même score. Et la lanterne rouge Ajoie est quant à elle tombée avec les honneurs contre Lugano 7-3. Enfin, Lausanne a perdu un derby important dans la course au play-off contre Genève-Servette 4-3. Après prolongation. Un mot de tennis, Gilles Teichmann n'a pas pu passer le cap du deuxième tour à l'Open d'Australie. La joueuse biennoise a été sèchement battue cette nuit par Victoria Azarenka en 1h12 de jeu, score 6-1, 6-2. Le grand chelem australien se poursuivra néanmoins, mais en double pour Gilles Teichmann qui sera aligné aux côtés de Victoria Golubic. On revient dans la région et c'est bonne nouvelle pour Tornos à Moutier. Le fabricant de machines-outils a connu une évolution très positive au cours de l'exercice 2021. Par rapport à l'exercice précédent, les entrées de commandes ont augmenté de 108,8%, passant de 98 à 204 millions de francs. Le chiffre d'affaires net s'élève à 171,5 millions, en hausse de 65,9% selon des informations communiquées ce matin. Tornos a enregistré une forte progression dans tous les groupe de produits et surtout les marchés importants. Les stratégies s'affinent en vue des élections cantonales bernoises du 27 mars. Les partis ont officialisé hier les apparentements qui permettent de peser davantage lors du décompte des voix. Pour l'élection au Grand Conseil, 4 groupes ont été constitués dans le cercle électoral du Jura bernois. C'est comme en 2018, mais la composition de ces alliances n'est plus la même. Loïc Georgi.
C'est à gauche que la principale évolution est observée. Tous les partis feront front commun pour ces élections 2022 et notamment les différentes fractions socialistes. Il s'agit du Parti Socialiste Autonome, son dérivé Ensemble Socialiste, le Parti Socialiste du Jura Bernois et le PS Femmes. C'est une première donc et on parlera même cette année d'une grande coalition de gauche puisque les listes écologistes, les Verts, les Jeunes Verts et le Parti Vert Alternatif en font partie également. À droite, l'UDC et le PLR, avec sa section jeune, sont apparentés. Un autre groupe est formé du Parti évangélique et ses jeunes de l'UDF et des Verts libéraux. Et puis on s'intéresse aussi au centre ex-PDC qui fera cavalier seul cette année, alors qu'il était lié au PSA lors des précédentes élections.
Il y aura aussi des apparentements pour l'élection du Conseil du Jura bernois. Les alliances entre partis sont grosso modo les mêmes que pour l'élection au Grand Conseil, avec le Bloc de gauche d'une part, l'UDC et le PLR ensemble, le PEV, l'UDF et les Verts libéraux dans un troisième groupe, et puis toujours le Centre qui la jouera en solitaire. Tous les détails sont à retrouver sur rjb.ch. Le projet de parc éolien des Quatre Bornes refait surface à Sonvilliers. Un comité citoyen a lancé une récolte de signatures en vue du dépôt d'une initiative. Il veut une nouvelle votation en dépit du refus du projet par le peuple en septembre 2020 et du rejet des recours déposés contre ce scrutin. Les initiants ont justifié leur action par le risque de pénurie d'électricité en Suisse dans les années à venir. Le Centre culturel et de loisirs de Saint-Imier a dévoilé sa programmation hier matin. Comme d'habitude, c'est un menu bien chargé qui attend les friands de culture. Ils pourront s'immerger dans des univers musicaux, humoristiques, artistiques, mais aussi numériques. On retrouvera autant d'artistes régionaux que d'emblèmes nationaux à l'image de Yann Lambiel ou encore Cuche et Barbeza. Une programmation riche et presque habituelle, un retour à la normale qui réjouit le programmateur du CCL, Patrick Daumont.
Bah, ça fait chaud au cœur, ça donne de l'espoir et puis j'espère vraiment que c'est un chemin là, que nous avons engagé et que le programme suivant sera encore plus proche de ce que nous vivions, ce que nous étions invités à vivre par le passé.
Est-ce que c'était un défi de trouver des artistes pour venir dans votre programmation? Finalement, est-ce que les artistes étaient vraiment contents d'être de nouveau approchés pour des représentations?
J'ai pas l'impression qu'il y a d'une situation particulière, si ce n'est que peut-être nous, des fois, on fait plus attention aux différents manques que par le passé. Vous constaterez dans ce programme de saison qu'il y a très peu de place aux artistes étrangers.
La première de cette programmation, c'est le week-end prochain avec une exposition de peinture. Il s'agit d'un face-à-face entre les œuvres de Fono et celles de Grégoire Morel. Retrouvez le programme complet sur notre site internet rjb.ch. Le pic de la cinquième vague du Covid est-il atteint, tout proche ou déjà même franchi? Personne n'a de réponse fondée en Suisse et surtout pas l'OFSP qui souffle le chaud et le froid, craignant une poursuite de la hausse des nouvelles infections, mais se disant quand même raisonnablement optimiste. L'OFSP prône la prudence, le Conseil fédéral devrait aussi s'y tenir aujourd'hui lorsqu'il décidera des mesures à prolonger au-delà du 24 janvier. La cinquième vague ne touche pas la Suisse de manière uniforme, les cantons du sud, de l'arc lémanique au Tessin, sont notamment plus affectés que les cantons alémaniques, sans qu'il y ait d'explications particulières. Écoutez l'embarras de Virginie Masseret de l'OFSP.
Omicron prédomine à plus de 90%. Maintenant, la vague Omicron semble stagner à un haut niveau, mais il est difficile d'évaluer le rôle de la saturation des tests dans cette forme de la courbe. Un taux de positivité qui peut atteindre jusqu'à 50% des tests PCR indique qu'on ne détecte de loin pas tous les cas. L'impact sur l'occupation des soins aigus est net dans certains cantons, mais pas ou peu visible dans l'autre. Et on ne s'explique pas ces différences géographiques, on ne sait pas non plus quelle en sera l'évolution. L'occupation des soins intensifs reste gérable, même si elle reste à un relativement haut niveau. Elle n'augmente pas, mais ne diminue pas vraiment non plus.
267 patients Covid sont aux soins intensifs actuellement. La grande majorité est encore infectée par le variant Delta, mais l'OFSP dit ne pas disposer de la proportion exacte entre patients infectés par l'un ou l'autre variant. En Australie, ce vol plutôt particulier et terriblement d'actualité. Un homme a dérobé 42 000 tests antigéniques rapides dans un dépôt de marchandises à Sydney. Les autorités l'ont annoncé ce matin. Ces tests se font de plus en plus rares dans le pays. Ils sont vendus dans le commerce au prix de 22 dollars australiens chacun, soit environ 15 francs suisses. Le gain potentiel pour le malfrat dépasse donc les 600 000 francs. Et puis aux États-Unis, l'ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a été assigné hier à témoigner auprès de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'assaut du Capitole. Trois autres alliés de l'ex-président américain sont également concernés. L'ancien maire de New York est accusé d'avoir activement fait la promotion des allégations de fraude électorale à la présidentielle de 2020 et d'avoir tenté de convaincre des élus locaux d'aider à annuler des résultats du scrutin. Très belle matinée.